Manitou, la famille d'Abraham, deuxième bande.
Le cours que nous allons commencer aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons étudié hier après-midi, et par rapport aux différentes conférences que vous avez déjà écoutées, pour ceux qui l'ont déjà écoutées, je vous signale en tout cas que hier soir, il y a eu une communication extrêmement intéressante que je retrouve les noms, si je ne me trompe pas, de Madame Schlegel, Blandine, qui portait sur de l'État hébreu à la démocratie moderne. Et ceux qui étaient là hier soir, et si vous avez des questions, vous pouvez y revenir, je crois que ça vaut la peine. Finalement, comme vous avez vu, déjà pour pressentir ces deux sujets, les études de texte et les conférences, sont assez liés, puisque la Révolution française et tout ce qu'il y a autour a été un événement dans l'histoire de l'identité juive, laquelle était une identité hébraïque. Vous voyez à peu près l'ensemble du lien entre les deux sujets. Nous n'aurons jamais le temps de formuler toutes les implications que cela mériterait de mettre en évidence. Mais enfin, quoi qu'il en soit, à travers vos questions, on pourra rejoindre tous ces thèmes. J'ai la voix un peu enrouée aujourd'hui, mais vous arrivez à m'écouter quand même? Et tout va bien? Et donc, je vous rappelle en tout cas que hier, nous avons étudié un texte du Midrash en illustration à l'intitulé de la première conférence que nous avons eue samedi soir et à travers laquelle j'ai eu l'occasion de lire une page d'existence juive du professeur Meir sur un certain nombre de formules, mais une des formules principales de définition de l'identité d'Abraham l'Hébreu. Vous vous rappelez de cela? Et il y avait là, je reprends les termes de l'analyse de samedi soir, un chidouche, un renouvellement du sens du terme hébreu qui signifie hébreu, le terme hébreu, la notion de le passeur, le passage. Vous vous rappelez de cela, ce que l'on écoute. Et alors, j'en ai profité pour reprendre un terme qui nous est déjà, j'espère, familier, et que je rappelle très brièvement, ça a été l'objet de l'étude d'hier, que nous étions habitués à connaître Abraham comme un homme de la civilisation, du paysage culturel et humain de la Chaldée, qui, par vocation individuelle, devient Abraham de la Bible, et qui reçoit le message d'aller vers une terre qu'on ne désigne pas encore dans le texte, et puis en fin de compte, il s'avère qu'il s'agit du pays de Canaan, dont parle le récit biblique, c'est-à-dire des restes d'Israël. Alors, nous avons étudié hier une des sources, un des textes qui éclaire ce problème en le recodant, en le précisant et en changeant complètement le postulat. C'est que, en fait, les Hébreux sont originaires du pays des Hébreux, qui est la terre de Canaan dans le récit biblique, et les Hébreux se trouvaient en diaspora de civilisation dans la civilisation chaldéenne. Le terme géographique le plus connu, c'est Ur-Kasdim. Et à un certain moment de l'histoire de cette civilisation d'Ur-Kasdim, autant, selon les catégories du récit biblique, c'est Nimrod qui est le tyran de cette civilisation, eh bien, la famille d'Abraham décide, par initiative humaine, de quitter le paysage d'Ur-Kasdim et de rentrer dans le pays de Canaan. Pour ceux qui ont encore le texte d'hier, je vous rappelle la référence. Cela, nous l'avons déjà lu, à la fin de la paracha de Noach, c'est au verset 31 du chapitre 11. Vaïkar, Terach et Abraham Beno, Vaïklo Ben Aram Ben Beno, Vaïtsara et Kalato, Vaïchet Abraham Beno. Alors je lis, je traduis à partir de là. Vaïtse et Wilkam et Ur-Kasdim, et sortir de Ur-Kasdim, l'alechet à Tsakenaam, pour aller en direction du pays de Canaan. Et ce verset se trouve bien avant le début du chapitre suivant, qui est le chapitre 12, et nous lisons, « Et Dieu dit à Abraham, Lech lecha, va pour toi, de ton pays, etc. Et la et tsacher areka, vers une terre que je t'indiquerai au futur. » Alors, le Midrash que nous avons étudié montre que ce lechecha doit être compris non pas par rapport à la sortie du casdim pour entrer dans le pays du Canaan, mais cette révélation est à Haran, à la frontière entre la Chaldée et le pays de Canaan. En chemin, il y a des péripéties plus précises que le Midrash met en évidence, je vous l'indique par érudition, mais je schématise. Sur le chemin d'Urkazim au pays de Canaan, à Haran, alors il y a une révélation à Haran, la première, jusque-là il n'y avait pas de révélation. L'initiative du voyage était une initiative humaine, et pour indiquer l'Ech Lecha et l'Eretz Amoria. Ça, nous le lisons dans le chapitre 22. Vous vous rappelez? Bon, c'est le même âge que nous avons étudié. Et alors, l'identification d'Abraham l'hébreu nous mène en deuxième étape, après la naissance d'Ishmaël, qui fonde une lignée de la descendance d'Abraham, avant sa mutation d'identité, avant qu'il se nomme Abraham, si certaines indications ne sont encore pas claires, puisque nous n'avons pas tout suivi les études, vous me le direz, on précisera. Et donc, une fois existant déjà la lignée d'Ishmaël, qui procède d'Abraham, et non pas d'Abraham, c'est une indication très importante du point de vue de l'identification de la famille d'Abraham. Et nous arrivons à la deuxième étape, qui est l'identité d'Isaac. Alors, d'après les questions qui ont été posées hier, il semblait nécessaire de revenir sur le thème du sacrifice d'Isaac. D'ailleurs, la personne qui a posé la question hier la reposera. On recolle exactement dans ce vocabulaire. C'est toi? Oui, tu le diras tout à l'heure. Alors, je voudrais une brève introduction de ce processus en trois étapes de réémergence de l'identité hébraïque du dedans de l'identité araméenne. Pourquoi faut-il trois étapes et comment les identifier? Je tiendrai compte de l'érudition habituelle que vous avez de ces problèmes pour ceux qui ont déjà la lecture de ces textes, de telle ou telle étude de commentaires. Et après cette introduction et les questions éventuelles que vous auriez, alors nous aborderons le passage qui faisait problème, disons donc déjà hier, de ce qu'on appelle en français le sacrifice d'Isaac. Bien, alors voilà donc le point de départ de cette définition d'identité. Il y a d'abord l'identité araméenne. Ce mot de Aram, vous vous souvenez, nous l'avons déjà rencontré dans les généalogies qui sont indiquées au chapitre 10, dans la descendance de Shem. Et cette identité araméenne va être adoptée par les Hébreux en exil de Ur-Kasdim. Est-ce que sur cette donnée, tout est clair, il n'y a pas de précision à apporter, le sens des mots vous éclaire. Je rappelle que la référence qui éclaire ce problème se trouve à la fin du premier chapitre du traité de Brachot dans le Talmud du Babylone, où le mot de Abraham est lu par le Talmud Av les Aram, principe d'identité de Aram, et le mot de Abraham indique le passage à l'universel de l'identité hébraïque retrouvée, puisque le verset d'appui va éclairer la définition que le Talmud en donne, Av les Chol Aolam Kulo, principe d'identité du monde tout entier. Les Chol Aolam Kulo, dit le Talmud. C'est vraiment le passage à l'universel de l'identité humaine au niveau le plus fort. Et le verset qui est cité à l'appui, c'est le verset indiqué au moment du changement de nom de Abraham en Abraham, qui Avramon Goim Netaticha, car j'étais destiné à être le principe d'identité, à père, dans ce sens-là, d'une multitude de nations. Ce point doit être très clairement retenu comme commencement de notre analyse. Il y a une identité araméenne qui s'appelle Abraham, mais nous avons déjà appris qu'elle est d'origine hébraïque. Elle est ce que devient l'identité des Hébreux dans la diaspora d'Ur-Kasdim, disons dans la civilisation d'Ur-Kasdim. Et dans cette civilisation d'Ur-Kasdim, l'Hébreu prend l'identité arame, signalée déjà cette identité arame dans la généalogie du chapitre 10. Si c'est nécessaire, je vous relis cette généalogie. Je vais le faire d'ailleurs immédiatement. Et ensuite, nous avons une deuxième appellation, un deuxième niveau d'identité, Abraham. Et Abraham, c'est le passage à l'universel de l'identité Abraham. Or, le verset 13 du chapitre 14, je vous rappelle la précision de changement de référence, Le correcteur étant présent, je suis tranquille. La formule du verset 13 du chapitre 14 disait « Abraham l'Hébreu ». Alors ça éclate. Vous voyez, à la lecture, bon, en traduction c'est invisible, okay. C'est que lors même qu'Abraham se nomme Abraham, qui est l'existence entité araméenne, la Bible nomme Abraham l'Hébreu. Alors, je ne reviens pas sur les analyses des sources du Midrash que nous avons eues ensemble, Shabbat Sot. Okay. Si vous avez des questions, vous pourrez les envisager. Mais nous savions qu'il était hébreu d'origine simplement à la lecture des généalogies. Il est fils de Terah, descendant de Hever. C'est pourquoi le Midrash a déployé des significations de sens au niveau de l'identité, qu'est-ce que c'est qu'un hébreu. Mais je tenais à rappeler cela, que pour eux, il y a une habilitation d'identité très énergique par le texte biblique. C'est comme si on vous avait dit l'araméen hébreu. C'est comme si en parlant d'un juif, on dit qu'il est hébreu. Vous imaginez le monde de problèmes politiques et l'état civil politique que je pose dans cette phrase. Mais pour la Bible, c'est clair. Abraham, le principe de l'identité de ce qu'on appelle Aram, c'est un hébreu. Mais c'est un hébreu enfoui dans l'araméen. Et toute l'histoire, les engendrements dans l'histoire de la famille d'Abraham, les patriarches, c'est de faire émerger, de mettre au jour, comme on dit en hébreu, en français on dit de mettre à jour, et aussi là-haut, de faire sortir à la lumière du jour ce noyau d'identité hébreu qui était occulté, enfoui, clandestin, au point que le père d'Abraham était un idolâtre. Et c'est pourtant de cet idolâtre, le père d'Abraham, que va reprocéder l'histoire hébraïque à partir d'Abraham. Nous avons une longue étude hier, à la suite de vos questions d'ailleurs, pour découvrir ce fait que ce n'est pas si simple que ça, qu'un araméen ne peut pas, par un coup de baguette magique, redevenir un hébreu. La Torah nous raconte qu'il a fallu 3 générations, dans des péripéties, d'un processus, d'un très long effort, pour qu'en fin de compte, un petit-fils d'Abraham, Jacob, achève ce processus en recevant le nom d'Israël. Voilà, je crois que là, il y avait un thème très important à remettre en évidence. Et chacun, donc, identifiera pour ses propres problèmes personnels, pour sa propre lecture, vision personnelle de ce récit qui est le nôtre. C'est notre identité qui nous est décrite dans ce récit. Je vous rappelle une des phrases clés de l'enseignement de M. Lordain, notre maître, que la Bible, c'est le seul livre qu'aucun homme n'a pu écrire, parce que le héros du livre, c'est le lecteur. C'est quand je lis ce livre que je découvre qui je suis. À un certain moment, Abraham, Isaac, Jacob, ça devient, enfin, 4000 ans après, moi qui lis. Il n'y a pas de livre comme ça au monde. Tous les livres qui parlent de l'homme dans la littérature humaine parlent de l'homme qui n'est de nulle part et d'aucun temps. L'homme avec un grand H, l'homme qui n'a ni hic ni nung, je ne sais pas comment dire ça. Même les romans les plus précis et les plus biographiques, à la limite. À plus forte raison, les livres d'histoire ne parleront que par allusion à l'homme existentiel concret qu'est le juif lorsqu'il lit sa Bible, et qu'en lisant sa Bible, il lit sa carte d'identité. À un certain moment, le héros pique le texte et c'est moi qui lis. Il y avait là un thème d'enseignement qui nous a beaucoup apporté. Il ajoutait d'ailleurs, et c'est un roman policier. Parce qu'on cherche un accusé. Bien sûr, l'accusé, c'est le juif. Et je veux dire, je crois que c'est aussi passionnant qu'un roman policier. On cherche qui est l'accusé. L'accusé de quoi? Vous voyez, derrière cette formule, ce qu'il peut y avoir comme profondeur théologique, d'ailleurs, de ce problème. Évidemment, si j'avais pensé à cet enseignement, j'aurais préparé les phrases des prophètes qui disent. Et on a cherché l'accusé, on a trouvé un innocent. Ça, c'est pour vous rassurer. Alors, on revient au sujet. Et voici quelle est l'introduction que je vous propose, en complétant un peu la citation du Talmud. Je vais ajouter une partie de la citation que je n'ai pas donnée dans l'histoire. Et le Talmud ajoute : et celui qui nomme de nouveau Abraham, Abraham, régression, transgresse un commandement de la loi. Surenchère du Talmud, transgresse deux commandements de Dieu. Il transgresse un commandement positif qu'il faut appeler Abraham, Abraham. Et il transgresse un commandement négatif qu'il ne faut pas appeler Abraham, Abraham. Il y aurait toute une putain à faire de ça. C'est vrai que les commandements se divisent en deux catégories. Les mitzvot assez de ce qu'il y a à faire, le commandement dit positif, et les mitzvot l'autre assez de ce qu'il est interdit de faire. Et alors donc, à partir du moment où cette mutation du passage à l'universel de l'identité d'Abraham l'hébreu s'est faite, il est interdit de tenter la régression à l'identité spécifique araméenne, et corollairement, il est imposé de réaliser le passage à l'universel à partir de l'identité spécifique. Vous voyez en quoi c'est une leçon pour notre temps, du point de vue de notre identité. J'ouvre une parenthèse qui est apparue à travers une des questions, mais je ne me souviens plus à quelle conférence de ce séminaire, déjà. C'est la confusion dans la modernité entre la notion de l'universel et le cosmopolitisme. Vous vous rappelez, c'est une question qui venait de là. Okay, je me rappelle de cela. Très souvent, de toute bonne foi, on pense être relié à l'idéal d'universel, on est en réalité relié à une aventure cosmopolite. C'est un chapitre, je crois, très important de l'histoire juive et l'histoire, au fond, humaine en général, à étudier. J'aimerais bien que vous agissiez là-dessus, vous m'aidiez à formuler en français ce problème. Quelle est la différence entre universel et cosmopolite, au fond? Vous savez une indication que j'ai rajoutée, vous savez que ça a été une des accusations antisémites marxistes les plus graves, l'accusation de cosmopolitisme. Et je crois que M. Bordet a vécu ce problème en Russie, en Allemagne. Oui, vous avez une suggestion à faire?
La dernière fois, celui qui se dit cosmopolite et celui qui croit n'être né nulle part alors qu'il est dans un ciel de la bucre de nous.
Vous avez entendu cela? Vous avez dit que j'ai dit, mais je crois que vous l'avez entendu. Moi, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas,
vous avez dit que de toute façon, le plus grand cosmopolite est né dans un petit village qui porte un nom bien précis.
Et... Non, mais quand j'ai dit des choses dont je ne me rappelle pas, ça, je ne me rappelle pas. Il est possible que je l'ai dit, mais en tout cas, ça va évidemment dans le sens. J'attends encore quelque chose d'encore au-delà. Oui, je crois que là on arrive à la définition. L'universel, c'est une identité propre, s'assumant et se connaissant, dans le vocabulaire moderne, disons, une identité nationale, mais liée à l'universel, et assumant l'universel. Alors que le cosmopolite, c'est celui qui participe de plusieurs identités nationales mêlées, et qui a nié, et qui a perdu sa propre identité nationale. Alors je crois que la dimension du cosmopolitisme ainsi définie, parce qu'il faut y avoir d'autres descriptions aussi littéraires qui mettent en valeur le caractère positif d'une telle capacité. Je me souviens de ce qu'a dit le docteur Bokhara l'autre soir en disant que les médecins juifs, et là je crois que le mot de cosmopolitisme d'emblée, avaient un art de communication avec les patients parce qu'ils sont habitués ataviquement à participer de plusieurs types de langages à la fois. Et donc peuvent utiliser cet art, disons, de savoir comprendre ce que dit le patient, même si les mots ne le disent pas. Bon, j'ai un peu interprété le docteur Bokhara, mais c'est ce qu'il voulait dire, je pense. Et il m'avait ajouté ensuite, nous avons reparlé de ça, que beaucoup de grands médecins juifs qui possédaient cet art regrettent que leurs petits-enfants aient un signe d'assimilation d'interdit. Je referme la parenthèse, je disais donc que le cosmopolite a substitué un melting pot de styles de vie divers, de nations diverses, à l'universel. C'est une sorte de raté de l'existence universelle. J'ai connu beaucoup de juifs devenus cosmopolites et qui étaient persuadés qu'en cela ils étaient universalistes, alors qu'ils n'étaient que, ils étaient autre chose, ils étaient cosmopolites. Parce que c'est clair ce que je veux dire. Je crois que là, il y a un problème important. J'ai entendu une fois une communication d'un grand philosophe juif de Belgique qui s'appelait Perelman, qui est décédé, et qui était le chef de l'école des penseurs juifs athées militants de Bruxelles. C'est bien ça. Et une fois, dans une colloque que nous avions là-bas, vertu de lumière, probablement, on parlait de Spinoza, et il avait fait cette analyse en montrant que Spinoza participait d'une équation de penseurs très typée, très précis, je me souviens bien, c'est les Sauciniens de Hollande. Et qu'il fallait bien réfléchir lorsqu'on attribuait à Spinoza une pensée universaliste. Et je referme la parenthèse, parce que je ne serai pas complètement au-delà. Mais c'est la citation qui me reste. Je me souviens très bien de cet homme qui a été un très grand penseur, complètement athée, complètement laïque, très juif, mais on se demande de quoi. Et sa réponse était du cosmopolitisme. En style belge, en plus. Oui.
Vous indiquez que dans un article de M. Jordan, que vous connaissez bien, le cas Spinoza, qui est le plus, avant la guerre, M. Jordan avait déjà...
Je ne vais pas me dire que tu l'as sous les yeux.
Non. Il avait déjà attiré l'attention sur le fait que Spinoza était très lié au socialisme.
Ah ben c'est ça.
Donc avant, bien avant 15 ans.
Oui, bien avant. Comme une Maïmonide, prends la vérité où tu la trouves. je ne me souviens pas, j'ai lu cet article, je ne me souviens pas que M. Gordon l'a dit, mais j'ai encore dans l'oreille la précision de Perelman. Et donc je crois qu'on peut interpréter comme ça cette exhortation du Talmud. Ne pas risquer le cosmopolitisme lorsqu'on vise l'universalisme. Appeler de nouveau Abraham, Abraham, c'est un peu cet échec. C'est en langage de sociologie contemporaine, les juiveries de type Aram, de type Abraham, sont trop spécifiques pour être véhicules du message de l'universel. Il faut qu'elles se dégagent de cette spécificité, qu'elles deviennent Abraham, pour qu'elles soient véhicules du message de l'universel. Il y a un débat contemporain qu'on ne peut pas expliquer, très important, et qui ne se résume pas du tout seulement au débat Israël-diaspora. C'est autre chose, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus vaste. Parce qu'il y a beaucoup de juifs en Israël et beaucoup d'hébreux en diaspora. C'est pas une catégorisation géographique. Est-ce que c'est clair? Donc, ne me faites pas dire que j'ai dit qu'il y a des ghettos juifs en Israël, mais j'ai dit. En tout cas, pour revenir à notre sujet. Je crois que cette indication du Talmud est très importante. Elle reste l'humour talmudique habituel, en objet. Et pourtant, dans un verset des prophètes, on dit que Dieu a baharta be Abraham, veotzetu veokazdim. Et voilà que le prophète appelle Abraham, Abraham. Il dit que toi qui as choisi Abraham et l'a fait sortir de Kazdim. Le Talmud répond, lis la fin du verset. Vesamta chez nous Abraham. Et tu as mis son nom Abraham. Je crois qu'il y a plus que de l'humour dans cette humour. Vous comprenez ce que je veux dire. Il y a le fait qu'effectivement, on peut citer Abraham, que pour dire immédiatement après, c'est la fin du verset, qu'Abraham est désormais et irréversiblement Abraham, et qu'il y aurait une régression de l'appeler de nouveau Abraham. Il y a un cas parallèle pour Sarah, qui se nommait déjà Sarai, avant Sarai, et là, les lois sont différentes. Abraham a le droit de nommer Sarai, n'a pas le droit de nommer Sarai Sarai, mais les autres ont le droit de la nommer Sarai. Il faut que je vérifie, rapidement je vérifie dans le Talmud, mais je crois que c'est ça exactement. J'aurais eu tendance spontanément, vous avez remarqué un lapsus, de dire qu'Abraham aurait le droit d'appeler Sarah Sarai. Parce que Sarah, ça veut dire la princesse, c'est le passage à l'universel, Sarai, c'est ma princesse. En fait, c'est le problème du danger. Auquel s'est exposé, finalement, lucidement, Abraham, en présentant sa femme comme sa sœur. Et on n'a pas compris, on a voulu la lui prendre, et puis il a expliqué, mais c'est quand même ma sœur, c'est mon cajou, mais personne ne comprend, jusqu'à ce que ça se dévoile. C'est un autre sujet. Et il y a donc un effort. J'emploie maintenant un langage un peu de la Kabbalah. Je ne vous mettrai jamais en garde contre l'emploi arbitraire et irresponsable du langage de la Kabbalah. Le langage de la Kabbalah ne, pratiquement ne se traduit pas. Et quand on emploie, il faut indiquer qu'on emploie par allusion. En disant que cette clipa aram, cette écorce de l'identité qui se nomme aram, de laquelle le germe hébraïque pour émerger doit traverser, faire éclater, eh bien, a deux dimensions. Elle a une dimension, je traduis, une clipa chitsonit, une dimension extérieure et qui va partir avec Ishmael. Et une dimension intérieure qui partira avec Ésaü. Vous pourquoi il y a deux états? Je ne sais pas si nous avons déjà vu ce point de l'analyse. Et c'est l'introduction que je voulais faire à notre texte, parce que dans cette clipa, il y a la même chose que dans les valeurs du noyau hébraïque, mais en dehors du principe de l'unité des valeurs. Je m'explique un peu plus en détail. Nous allons voir que l'unité des valeurs qu'il faut reconstruire pour que l'identité hébraïque émerge, c'est, en schématisant, parce que ça implique une infinité d'attributs, comme dirait Spinoza d'ailleurs, mais que la symbolique du langage que j'emploie en citant mon texte résume en 13 dimensions de l'unité. Nous avons déjà vu cette analyse. Et ces 13 dimensions de l'unité sont résumées en 3 axes. L'axe de la première valeur, qui est Chesed. Je crois que nous allons en profiter pour recoder l'analyse. Chesed, c'est la vertu de charité, c'est la vertu de la moralité dans le lien à l'autre. Chesed, défini pour lui-même, c'est l'autre passe avant moi. C'est ça, Chesed. Din, c'est la deuxième dimension. Din, c'est la justice stricte. Alors, je ne dirais pas moi, je passe avant l'autre, mais ça va un peu dans ce sens. Les chesed protègent l'autre, din protège moi. Parce que, en fait, la relation entre sujets est une relation de réciprocité, d'intersubjectivité. Et une seule de ces vertus n'aboutit pas à résoudre le problème de la reconstruction de l'unité de la conscience. Si je m'arrête à chesed, l'autre est protégé. Mais moi, je suis sacrifié. On va aller voir ce que je dis. Si je protège l'autre et que cela, je me sacrifie. Alors c'est une vertu d'héroïsme qui peut aller jusqu'au sacerdoce, mais qui est hors de la morale. Le problème moral n'est pas résolu. Je ne dis pas que c'est amoral, peut-être. En tout cas, c'est je ne dis pas que c'est immoral, peut-être, mais c'est en tout cas amoral. Ce n'est pas le problème moral qui est en jeu dans la vertu de charité lorsqu'elle est seule. Il y avait là un recodage de la critique de la position juive par rapport à la position chrétienne concernant le problème de l'essence des valeurs morales. Pour la position chrétienne, c'est en dominant de charité. Et que ça. Eh bien, la critique de la position juive dira que cette valeur est une valeur absolue, une vraie valeur, mais elle n'est pas une valeur qui peut résoudre le problème moral. Elle résout le problème du sacrifice. Elle est la motivation du sacrifice. Et j'ai toujours eu instinctivement une réticence à ces philosophies de la charité que cela, qui exhorte l'autre à la charité, mais soi-même n'est pas un con. Je ne sais pas comment dire ça. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux étudiants quelque chose que j'ai appris dans mes maîtres de philosophie il y a très très longtemps. Quand on lit un livre de morale, on est toujours gêné. Quand on est un philosophe. Un philosophe qui lit un livre de morale est gêné. Pourquoi? Parce qu'il semble qu'il y ait un ascendu du langage entre l'auteur et le lecteur, tu sais, tout ce qu'on va dire des valeurs morales, ça concerne ni toi le lecteur, ni moi l'auteur. C'est gênant. Est-ce que c'est clair? Il y a des textes de mystiques qui ont été des héros de la charité, qui vraiment s'exposent dans leur charité. Ce n'est pas les philosophes, j'ai l'impression. Vous avez vu les philosophes? Non. Alors, nous sommes donc sur le chemin d'une approche de l'unité des valeurs. Et alors, les deux valeurs fondamentales qu'il faut unifier, c'est Chesed et Din. Et il y a un ordre qui est très important. L'ordre chronologique des patriarches, c'est l'ordre logique de l'ordre des valeurs. D'abord la charité, c'est urgent. Mais ça ne résout pas le problème moral. Alors ensuite, la vertu de Dieu. Et le problème moral n'est pas encore résolu, mais on est très avancé. Et lorsqu'apparaît la troisième étape où les deux s'unifient, alors la vérité morale apparaît. Bon, nous reprendrons donc dans cette étude de l'histoire de la famille d'Abraham, ce plan de l'ordre des valeurs. Je ne sais plus quel philosophe disait l'ordre des vertus. C'est quel philosophe qui disait ça? En général, les grandes traditions moralistes privilégient une parmi les valeurs, une parmi les vertus, et n'arrivent pas à donner une proposition de solution à cette quête de l'unité des valeurs, de la croissance morale authentique. Mais j'insiste sur cet ordre, s'il fait nécessaire, on pourra analyser beaucoup plus profondément. Ce n'est pas pour rien que c'est Abraham d'abord, et Abraham est tout entier Abraham, jusqu'au moment du sacrifice d'Isaac, où il va être éprouvé par la valeur opposée. Pour qu'il soit évident qu'il est un juste de l'unité des valeurs, lui, qui est le juste de la charité seule, doit aussi faire la preuve qu'il est juste de la vertu opposée, c'est-à-dire celle du digne. Ce sera une première introduction à votre texte. Est-ce que c'est clair cette idée? Oui. Abraham a eu 10 épreuves, 9 sur sa propre valeur. Et quand il s'est avéré qu'il est 9 fois, il a 9 fois prouvé qu'il est le tzadik de Midat Hesed, alors il faut qu'il passe l'examen de passage de la Midat Hadin. C'est la Midat Hadin qui va éprouver Abraham au moment du sacrifice d'Isaac. Bien, or il y a une Midat Hesed qui n'a aucune chance d'être liée à l'unité des valeurs. C'est la Midat Hesed de la Klipa Abraham. C'est Hesed, mais en tant que c'est Hesed détaché de l'unité des valeurs, elle est Klipa et pas Or, en langage de Kabbalah. C'est clair ce que je dis, hein? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a dans cette clipa de l'arabe, dans cette écorce de l'identité arabe? Il y a Chesed et Din, mais elles sont là, isolées, coupées de l'unité des valeurs. Et alors, dans la Kabbalah, on les désigne aussi dans l'expression, je traduis pas, c'est pour ceux qui sont habitués à ce vocabulaire, c'est Chesed de la Sitra Acha, de l'autre côté du monde, qui risque d'apparaître si c'est un Chesed coupé de l'unité des valeurs. Alors il faut évacuer la tentation d'un chesed qui ne serait qu'un chesed. Et nous verrons que cette clipa chitsonite partira avec Ishmael. Et Ishmael aura son propre itinéraire spirituel de tzadik en tant qu'il est fils d'Abraham, de la Minata Chesed. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'il soit Israël. Et l'islam est une étape dans le chemin de la rédemption d'Ishmael. Je referme la parenthèse sur Ishmael, ce n'est pas maintenant le moment de cette étude. Et lorsqu'il achève sa tchouva, il peut être tzadik, sans pour cela qu'il soit nécessaire pour lui d'être Israël. Nous avons déjà, dans d'autres études, lu des textes à ce sujet. À la fin de son histoire, Ishmael est appelé tzadik. Lorsque il a réalisé son propre itinéraire spirituel de fils d'Abraham, au niveau de la Mida, Chesed. Je reviens surtout à ce point de l'ordre de ses vertus. Et ensuite, il y a Yitzhak. Alors Yitzhak enferme en lui la possibilité d'Ésaü et la possibilité de Jacob. Ce n'est que lorsque Isaac se dévoilera comme père de Jacob qu'il est Isaac d'Israël. Et là, c'est plus difficile, le clivage de ces deux potentialités d'identité, si je veux dire, est plus difficile, c'est la clipa intérieure qu'il faut évacuer. C'est-à-dire, la Midat Hadin, quand elle est isolée de l'unité des valeurs, est dévastatrice et catastrophique. Je recode au vocabulaire que nous avons hier à la conférence hier soir, alors qu'on vise le droit, la légalité prend place de la moralité. C'est cette clipa de Midat Hadin isolée de l'unité des valeurs. C'est clair? Vous voulez qu'on m'explique plus? Si vous voulez qu'on m'explique plus, il faut m'interroger, je ne peux pas m'en expliquer à vos questions. Je pense que c'est suffisamment fait.
Il y a donc cette unité de valeurs. S'il y a la troisième aussi, il y a Isaac. Quand bien même il y a adoption, il peut y avoir une adoption pour pouvoir Isaac, Abraham.
J'avoue que je n'ai pas compris, mais j'y arrive. Je n'ai pas encore complètement compris la question, mais je vais arriver au problème. Et pour le moment, voici donc nos étapes. Abraham est occupé à redevenir le tzaddik de Mizrachesed en tant qu'hébreu. Il se débarrasse de la potentialité d'être le tzaddik de la Mizrachesed en tant qu'hébreu. Et cette mida isolée, c'est Ishmael. Au fond, d'autres termes, qu'est-ce que c'est que ce passage de l'araméen à l'hébreu se faisant à travers cette sélection d'identité? Je regarde ce mot terrible en français. Sélection d'identité, c'est un mot choquant, mais on n'est pas dans la disposition. En hébreu, c'est beaucoup plus clair. C'est birour. Figurez-vous que quelqu'un aime le vin, mais il aime aussi les lentilles. Et le marchand qui lui vend les graines a mélangé le riz et les lentilles. Alors il faut que faire le birour entre le riz et les lentilles. Mais le riz, c'est mangeable et les lentilles aussi. C'est à cette sélection d'identité que je parle. C'est clair, birour. C'est d'ailleurs un des travaux interdits du Shabbat. On ne fait pas le birour de la nourriture, vous connaissez, c'est très clair. Et, c'est vrai? Oui. Ne croyez pas que c'est facile de manger cachère, c'est clair. Et alors, deux choses peuvent être cachères, mais mélangées, c'est interdit. Ça va jusque-là. Et alors, je reviens donc à ce problème. Et. Il y a dans l'identité araméenne, et c'est des dîmes, mais de l'ordre de la sikrachla, c'est-à-dire exposé en danger de se couper de l'unité des valeurs. Or, la Torah, de façon, avec un regard lucide, impitoyable, nous décrit cet engendrement, ce bureau d'engendrement. Il faut évacuer la clipa aram, et comment? Premièrement, la clipa extérieure, c'est chesed. Deuxièmement, la clipa intérieure, ça c'est dit. Et ce n'est que lorsque ce birour a été fait que le produit fini, si j'ose dire, de ce birour, c'est Jacob, lorsque il réussira à assumer l'unité des valeurs, de ces deux attributs fondamentaux de l'unité, mais qui résument une infinité. Alors il reçoit le nom d'Israël, et là, en lui, Abraham redevient bon. Si c'est suffisamment clair. Bien. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? À chaque étape, les personnages centraux de ce récit ont le pressentiment de l'unité dernière. Ils connaissent tous le nom de la chaîne. Mais le nom de la chaîne qui se révèle à eux dans la réalité de la connaissance, chacun avec son visage. Hachem se révèle à Abraham comme Elokei Abraham. Hachem se révèle à Yitzhak comme Elokei Yitzhak. Ce n'est pas le même visage. Le visage de Elokei Abraham est souriant. Il est id, chesed entier. Okay? Le visage de Elokei Yitzhak est appelé dans la Bible Pachad Yitzhak, la terreur d'Isaac. Si on prend au sérieux cette Mida qui se révèle seule, la Mida Tadim, on est terrifié. Il faut être Isaac pour porter ça. C'est pourquoi nous verrons que le salaire d'Isaac n'est pas du tout une épreuve pour Isaac. Je ne sais pas, je paraphrase, comme si Isaac, au moment Abraham, tiens, il t'a donc te décider, on y va. Ça, c'est Isaac. Est-ce que c'est clair le problème? Nous verrons qu'il n'y a aucune allusion au fait que c'est une épreuve pour Isaac. Nous avons de très beaux poèmes dans la liturgie qui racontent la peine d'Abraham et la peine d'Isaac, mais c'est pas la même. La peine d'Abraham, c'est son fils. C'est énorme. La peine d'Isaac, chaque autre chose, quitter ce monde, c'était quand même gentil, mais pas plus. Et alors, effectivement, je crois que l'ordre est très important. Je vais essayer de m'expliquer un peu là-dessus. Le juste de Chesed, avec un effort considérable, c'est l'histoire de Sarah, finit par enfanter un juste de Dieu. Mais un juste de dîme n'enfantera jamais un juste de chesed. Si on a commencé la rencontre à l'absolu, avec l'absolu, par la métaphore dîme, on n'arrivera jamais à la métaphore. Même pas sous forme de sénilité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous comprenez en France. Parce que de la métaphore chesed, premier visage de l'absolu, on peut arriver à la métaphore dîme. C'est très difficile. Là, le HM, pas qu'à dire ça, enfin. Mais si on est un homme de la Mida Tadim, on sort plus de famille d'interdits, on n'arrive plus à nous. C'est l'échelle du légalisme. Si on renforce la loi par le légalisme, on n'arrivera jamais à la moralité. Et c'est le caractère dévastateur de la loi légale, qui était la légalité de la moralité, mais qui n'est connue que comme légalité. C'est l'échec de Rome. Rome, c'est la Minata Digne. Et la Minata Digne, on n'arrive pas à la Minata Res. Et c'est clair ce que je veux dire. Donc cet ordre qui est l'ordre chronologique des patriarches, l'ordre logique de la vie. Bon. Alors quel sera le destin d'Ishmaël? Ça, nous en avons parlé dans notre étude. La destinée, c'est lorsque il fera de la Minata Digne qui lui manque son idéal. Et ce qui se fera sérieux. Et d'ailleurs, l'histoire de ces révélations inouïes, en arabe, la religion, ça s'appelle Al-Din. Le mot hébreu qui le dit. Vous connaissez le nom de Salah al-Din. En français, c'est Saladin. Et l'aventure de Ésaü, que nos maîtres nous ont fait lire déjà depuis le temps de la Mishnah, dans l'histoire de Rome, eh bien, c'est l'homme de la Minata Digne qui prend pour idéal la Minata Chesed. Et c'est pourquoi Rome va choisir comme religion la religion d'amour. Parce que c'est l'idéal qui lui manquait en tant que Romain, si je vous disais, dans le même processus. Et j'ai pas encore dit. Et je veux dire que lorsque le chrétien achève sa teshuva, le mot ici en français ne correspond pas exactement au métanoïa pour le chrétien ou teshuva pour l'hébreu, repentir, conversion, il devient Israël. Il disparaît en tant que chrétien parce qu'il devient Israël. Toshuva. Et vous avez compris, ça veut dire qu'il disparaît. Il disparaît en tant que chrétien parce qu'il devient Israël. Alors que le musulman n'a pas à être Israël pour être sadique. C'est une lecture, une histoire complètement différente. Et alors, c'est la prétention du chrétien de dire « je suis Israël ». Mais vous voyez quel est le décalage et quel est le conflit. Alors si tu es Israël, sois Israël vraiment. Et si tu es Israël vraiment, il n'y a plus des aïes. Aujourd'hui, il y a des aïes, comme je vous ai dit hier. C'est, je crois que c'est le trauma profond de la conscience chrétienne actuelle qui est en train de pressentir cette équation. Il faut les aider. Il faut les aider. Moi, je suis... j'ai l'habitude de dire ça un peu sous forme, peut-être ça me paraît en français un peu d'humour, mais en hébreu ça sort bien. Il faut avoir beaucoup de charité chrétienne pour les chrétiens. Le temps est arrivé. C'est clair ce que je dis. Parce que vraiment, il est juste là. Et alors, des convulsions du problème, c'est quand par exemple, un juif devient chrétien. Et dit que c'est en cela que je suis un vrai juif. C'est un cadeau fait aux chrétiens. Vous voyez, les chrétiens, c'est les vrais juifs. J'ai pas parlé de qui, vous savez pas. Mais il est possible, je sais pas, je lis ça dans mes rêves, c'est un fantasme. Il est possible que ce soit le prochain pas, c'est-à-dire le dernier. C'est possible, j'en sais rien. Mais c'est un événement tellement inouï qui se passe à Paris, on se rend pas compte que c'est une histoire jolie, comme on dit en yiddish. C'est joli. C'est énorme. Imaginez ce qui a pu arriver dans l'histoire de l'Église, et en France. Et alors, la question de l'ordre, vous voyez ? Alors, je vais dire un jeu de mots en hébreu qui ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais ça peut. D'abord, ça va faire plaisir aux Ashkenazes. Le Talmud Torah, en hébreu, s'appelle la Heder. Et Heder, c'est les otiotes. Les otiotes,